Je suis chargée de vous accueillir tous, en particulier Gérard et les Sandra et les musiciens du Troubadour Art Ensemble, au nom de Thierry Leroy, le président de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, qui a organisé cette soirée dans le cadre d'une journée qu'on consacre à la langue et à la culture occitane. Et la poésie du troubadour, mais vous en parlerez bien mieux que moi, s'inscrit tout à fait à un moment clé de cette culture occitane. Donc, et je suis chargée de vous transmettre aussi les salutations de Claude Sicre, le directeur de Langovib, l'université occitane de la Guépie, qui, pour des raisons familiales et ses nombreux petits-enfants, ne pouvait pas être là non plus aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir à Saint-Antonin Gérard Zucchetto, Sandra Hurtadoros et les musiciens du Troubadour Art Ensemble. C'est un grand honneur parce que M. Zucchetto, j'ai connu son nom il y a très longtemps, en achetant un disque très, je crains. Et c'est un des spécialistes français et européens de la poésie et de la musique des troubadours. Il est à la fois chercheur, musicien, musicologue, enseignant, etc. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un très grand honneur pour nous de vous avoir tous ici. Je vous donne la parole et encore merci d'être avec nous.
Tout d'abord, merci d'être là, d'être venu. Merci aux amis du Vieux Saint-Antonin de nous accueillir ici, dans ce lieu qui est à la fois majestueux et représentant d'un patrimoine très, très ancien, et particulièrement pour l'époque qui nous intéresse. Je voulais vous remercier aussi de déployer autant d'efforts pour l'intérêt qu'il y a à redécouvrir la culture médiévale, celle du troubard, des troubadours. C'est important, et je pense même que nous arrivons dans une période de l'évolution civilisationnelle où c'est plus important que jamais. Je vais vous présenter les amis qui sont venus avec moi. Patrice Villomet est un musicien qui fait de la musique médiévale depuis très longtemps, dont il joue de plusieurs instruments. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait le pont entre la musique médiévale et la musique d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il fait aussi de la musique contemporaine. Il joue des œuvres de musique contemporaine, même s'il utilise un des instruments les plus anciens et qui est lié à la musique médiévale et qui est souvent représenté sur les tympans. C'est-à-dire, celui qui est derrière lui, de forme trapézoïdale, c'est le tympanum, qu'on appelle aussi psalteri, psalterion. À ma gauche, à votre droite, Anthony Madueño Ranchal est musicologue et il travaille particulièrement sur le manuscrit de Ripoll. Et à Ripoll, vous savez, de l'autre côté des Pyrénées, en Catalogne, Il y avait un scriptorium très important. Et il a découvert très récemment un manuscrit inconnu, inédit. Quand je dis un manuscrit, une page manuscrite, un fragment. On appelle ça un fragment. Parce que quand on découvre un manuscrit, c'est le Gotha, vous voyez. Mais un fragment, c'est déjà pas mal. Parce qu'on croit que qu'on a tout découvert, mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Tony chante également. Et il travaille avec nous, justement, dans notre projet de troubadour ensemble, de donner à la poésie lyrique un écho dans nos voix aujourd'hui. Ça, c'est de ça que nous allons parler, parce que c'est la chose la plus importante. Je vais quand même faire une parenthèse importante aussi, c'est que dans ces manuscrits de Ripoll, du monastère de Santa Maria de Ripoll, il y a des écrits en latin, en catalan et en hébreu. Et ce soir, au concert, vous entendrez les trois choses. Sandra Hurtadoros, pour ceux qui l'ont écouté l'année dernière à la Guépi, avec moi, c'est la voix du troubar. Je ne peux pas dire autrement. Il y a des chanteurs de troubadour et puis il y a Sandra Hurtadoros, qui fait beaucoup plus que chanter, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle a vraiment le sens profond de la connaissance des troubadours, des textes. Elle a étudié la musique baroque, elle est compositrice, elle vient récemment de faire un opus, on appelle ça opus, vous voyez, on a toujours besoin du latin pour donner du sérieux aux mots. Donc elle vient d'écrire une œuvre pour piano, chant et orchestre de chambre. Et là, elle utilise l'harmonium indien, qui est le serpati qu'utilisent les chanteurs soufis du Pakistan pour s'accompagner. Alors, vous parliez de Claude Sicre, là, tout à l'heure. Il m'a envoyé un message en me disant, ben voilà, j'ai des petits-enfants, bon, bref. Donc je lui dis, régale-toi, papy, on pensera à toi. Et puis, je parlerai de toi en disant que tu es le vicomte du troubar des fabuleux d'aujourd'hui. Alors, à la Guépi, je parlais des troubadours de Saint-Antonin. Tous ceux qui ont eu à voir avec l'histoire de Saint-Antonin de Nobleval. Et c'est assez intéressant parce que, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, mais le contexte géopolitique, historique, architectural et lyrique place Saint-Antonin comme un lieu incontournable. Alors il y a eu d'abord le vicomte de Saint-Antonin, celui qui s'appelait Raymond Jourdan. Il y a eu ensuite, pendant la croisade des Albigeois, quelqu'un qui aimait beaucoup Saint-Antonin et qui restait ici, c'est Guillaume de Tudelle. L'un des deux ayant témoigné de cette croisade contre les Albigeois, et puis bien plus tard, Raymond de Cournette. Et puis il y a eu Hugues de Peine, et enfin bref, il y a eu d'autres troubadours qui ne sont pas directement liés à la maison des vicomtes de Saint-Antonin, mais qui ont eu affaire à un moment ou à un autre, comme Hugues de Peine justement, ou Cabezac, à Saint-Antonin de Nobleval. Mais je ne vais pas, aujourd'hui, vous raconter cette histoire, puisque normalement, avec les amis du vieux Saint-Antonin, vous la connaissez par cœur. Ou presque. Pas vraiment ? Mais si. Sachez que le plus important de tous, le plus connu, le plus étudié, quand on étudie les troubadours, c'est Raymond Jourdan. Et Raymond Jourdan, il a la particularité quand même d'avoir été un troubadour qui a écrit toujours dans le style classique du troubar. On va revenir là-dessus un petit peu plus précisément. Et dont la vie, légendée ou pas, mais en tout cas, si l'on lit le témoignage du moine de Montaudon, et le second troubadour, celui de Saint-Antonin, celui dont la femme est allée s'enfermer chez les patarins. Ça veut dire, sa femme était, elle n'était pas patarine, mais elle était intéressée à être plutôt du côté des hérétiques, ce qu'on appelait les bons hommes et les bonnes femmes. Ce que chez nous, dans l'Aude, on appelle les cathares. Donc, voilà un troubadour dont la femme est cathare, lui ne l'est pas, et elle le quitte, bien sûr, pour aller s'enfermer, parce que c'était ça un peu, hein, le catharisme, c'est-à-dire les hommes qui adhéraient à la foi cathare, distribuaient leurs biens, les femmes aussi d'ailleurs, et puis allaient s'enfermer dans des communautés de bons hommes ou de bonnes femmes. Et terminer avec la vie de tous les jours, dont il faisait vœu de chasteté, et puis vœu de ne posséder rien du tout. Et ils passaient leur temps, évidemment, en prière, sans vous vous douter. Alors, maintenant, ce que j'aimerais, c'est vous parler des troubadours. Parce que il y a une grande confusion quand on évoque le mot troubadour, et tout à coup, cette confusion vous projette dans un monde qui est tout sauf la réalité. Et ce monde, c'est celui de la folklorisation. Ça veut dire, si je vous demande à n'importe lequel d'entre vous qu'est-ce qu'un troubadour, je suis à peu près sûr d'entendre des choses que je pensais ne pas pouvoir entendre après tout ce temps de travail où j'explique ce que sont les troubadours. C'est-à-dire, donc, on va commencer à l'envers. Non, le troubadour, c'est pas quelqu'un qui est un SDF qui va mendier sous les fenêtres d'un château en attendant qu'une dame jette un morceau de pain ou, dans le meilleur des cas, un mouchoir. Non, le troubadour, ce n'est pas quelqu'un qui est rustre et sans importance. Oui, le troubadour, c'est quelqu'un de cultivé. Souvent, il connaît le livre de Ovide, l'art d'aimer. Il connaît ses classiques grecs et latins. Le troubadour, oui, bien sûr, dans la société des XIIe et XIIIe siècles, même s'il est d'origine modeste, par son art, il va s'élever au rang le plus haut. Je prends un exemple, Rimbaud de Vaqueiras, qui était un troubadour occasionnel du château de Vaqueiras, finira sa vie riche de 10 châteaux, des chevaux, des domaines à n'en plus finir, et il aura été protégé toute sa vie par les grands seigneurs italiens. Et c'est la même chose pour Bernard de Ventadour, et c'est la même chose pour beaucoup, beaucoup d'autres. Oui, le troubadour, le premier, est l'un des quatre plus grands seigneurs de l'Europe médiévale. Il s'agit de Guillaume IX de Poitiers, Guillaume de Poitiers. Mais le premier, qui n'a pas laissé de traces, s'appelait Eble. Eble de Ventadour. Eblun de Ventadour, qu'on appelait El Cantor, le chanteur. Et ce chanteur en question, on ne connaît que son nom, on ne connaît aucune pièce de lui. Ce qui place d'entrée de jeu le troubard dans un monde, vous l'avez compris, aristocratique. Qu'est-ce qu'on fait dans une cour? D'abord, comment ça fonctionne une cour au Moyen-Âge? Non, ce ne sont pas des cours d'amour. Ça, c'est une erreur. Une cour, c'est un endroit où l'on va discuter de politique, mais aussi d'astronomie, de médecine, de mathématiques. Demander si on va continuer à donner de l'argent au scriptorium qui est en train de copier, comme dans Le Nom de la Rose, là, vous savez. Les chansons de troubadour et les autres troupes. Une cour, c'est un lieu où la dame est aussi respectée que l'homme. Et je vous assure que c'est rien de le dire. car en Allemagne, la dame est là juste pour faire des garçons et empoisonner le plus vite possible si elle n'en fait pas. C'est la même chose dans les cours du nord de la France. Les femmes sont considérées comme des matrices et point. Dans le droit occitan, qui provient directement du droit romain, la dame a une place qui la positionne comme l'égale de l'homme, tout simplement parce qu'elle administre en bien ses propres biens, en bien propre. Donc on a de très bons exemples, Aliénor d'Aquitaine, Ermengarde de Narbonne, Dame Cézely, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte général que les troubadours vont déployer leur verve. Alors, ce qui est formidable, c'est que le premier, le comte de Poitiers, va utiliser la langue qu'on appelle le roman. On ne l'appelle pas encore l'occitan, on appelle ça le roman, c'est-à-dire la langue vernaculaire. Alors que lui ne parle pas occitan, pas du tout. Il est, par sa mère, originaire de Bourgogne, par son père, on ne sait pas très bien si son père parlait l'occitan de Poitiers, toujours est-il que ce n'est pas sa langue usuelle de tous les jours. Et pourtant, il prend cette langue pour faire ses vers pour ses belles compagnons. Et c'est comme ça que naît le troubard, comme un jeu. À la même époque, exactement à la même époque, où à côté de chez lui, à Saint-Martial de Limoges, on écrit des tropes en latin, qui sont des couplets rimés pour être chantés. D'ailleurs, étymologiquement, les universitaires se sont demandé longtemps si troubadour ne venait pas de tropator, celui qui écrit des tropes, celui qui compose des tropes. D'autres ont dit oui, mais non, troubadour, ça vient de tarab, tarabadour. Parce que en arabe, le tarab, c'est le sentiment, l'écriture du sentiment, donc tarabador. Mais non, troubadour, ça veut dire tout simplement, ça vient de troubar, qui veut dire trouver. On connaîtra l'équivalent en picard, trover, les trouvères, bien sûr. Donc, ceci étant posé, il y a des cours en Limousin. Guillaume IX a 30 ans. Nous sommes en 1100 et il commence à écrire, à faire des vers en occitan en faisant un pied de nez à l'église. Il n'écrit pas pour la Vierge Marie, il écrit pour une dame qu'il aime et qui est déjà mariée, la vicomtesse de Châtellerault, que tout le monde appelle la Dangeruso, et il va écrire des chansons pour ses compagnons de bataille et il va raconter ses amours. C'est la première fois que ça arrive. On n'est pas dans l'écriture épique, on est dans l'écriture de l'amour. Farei un vers de dreit nien. Je ferai un vers. Alors mon ami Boucheron, il dit, oh, il ne faut pas s'embêter, c'est un vers de rien du tout. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Moi je lui dis, non, ce n'est pas un vers de rien du tout. C'est un vers qui sort du néant, justement. Un vers qu'on va chercher dans une sorte de néant. Parce que le néant, le nient, c'est un concept. Je vous ai parlé du catharisme tout à l'heure. C'est le concept, le bien et le mal. Nous sommes dans un monde dualiste où le bien et le mal sont les préoccupations de tous les jours des hommes, qu'ils soient cultivés ou non. Et que des prêches, il y en a partout, des ordres mendiants et itinérants, il y en a partout, dont on entend que ça. Vous êtes dans le monde du mal. Si vous voulez être dans le monde du bien, Ça, c'est le prêche cathare. L'autre prêche, celui de Rome, dira « Vous vivez dans le péché, l'Église va vous ramener dans le bien. » Sauf qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas ce dualisme. Il faudra attendre, bien sûr, les prêcheurs qui viennent de Bulgarie pour que la personne du Moyen-Âge, un peu perdue, s'y retrouve un peu. On vous a promis une conférence en musique. Il va y en avoir, tout de suite. Je parlais de cette cour de Poitiers. À la même époque, à Ripoll, qu'est-ce qu'on chantait, Anthony ? Voilà ce qu'on chantait à Saint-Martial de Limoges, parce que il se trouve que de Guillaume de Peyteus, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de mélodie de lui, comme pour beaucoup d'autres troubadours. Donc, ce que vous allez entendre est pris, est un emprunt à Saint-Martial de Limoges et à ses troupes dont je parlais.
Compagno, farai un vers de scovine et aurai mais de foudats noia de se et er tots mesclats d'amor e de joi e de jove.
Tout est dit dans cette phrase. Compagnon, je vais faire un vers inconvenant. Et il y aura autant d'amour, de joie que de jeunesse. Formidable. Marc Abru, lui, c'est un Gascon. Et à la même époque, il n'est pas pour ces considérations-là parce que il est anti-aristocratique. Marc Abru, c'est un moine défroqué. Et il va chanter ceci. Alors, il y a entre ces deux chants une chose qui ne vous a pas échappé, c'est que la première, la mélodie est très simple, c'est celle d'un trope, La deuxième, c'est une mélodie déjà élaborée. Vous avez entendu, Marc Cabru dit « Pax in nomine Domini ». Ça veut dire qu'il emprunte à ses connaissances globales. Bien sûr, l'art d'aimer d'Ovide, quand on parle d'amour, mais aussi la Bible. Et il va se poser en moraliste. C'est un courant, c'est le courant des premiers troubadours gascons. Ailleurs, à la même époque, Rimbaud d'Orange, à la cour de Montpellier, grand seigneur d'Homelas, mais qui prend comme nom de scène Rimbaud d'Orange, parce que sa mère était d'Orange. Il était en fait seigneur d'Homelas, de Courtaison et d'Orange. Et lui ne va pas s'intéresser à ces concepts, il va s'intéresser à écrire sur l'écriture. Et il va écrire, par exemple, « Aresplan la flur sember, s'appel trencan, rang sepel ter, triscal flurs, neuchel secum lapis, que cotse destrene trenca, don vei morskil, clisba, cisque, en feien rame en cisque, mas miten ver, jaugen joi, ercan vei seclus tulen crois. » En fait, il va se servir de la langue occitane pour œuvrer quelque chose de très personnel, ça veut dire une œuvre d'art. Mon ami Pierre Beck avait tenté une traduction à l'époque que je trouve superbe en français. Et la traduction donne ceci. « Quand paraît la fleur inverse sur roc rugueuse et sur tertre, est-ce fleur non gel et givre qui tenaille, torture et tronque ? Car le monde, je l'inverse, que pleine me semble tertre, et je tiens pour froid, neige, et pour chaud, neige et givre, et pour froid, le soleil qui tronque. D'un baiser, je vous renverse, dame, rien n'y peut, ni plat, ni tertre, ni menace. Vos beaux yeux sont pour moi ronces, qui attrapent tant mon cœur de joie que je n'ose avoir désir traître. » Tout est dit. C'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel, c'est la langue et sa sonorité, ici avec un jeu de désordre phonologique. C'est également la perception du monde. Ici, le monde est à l'envers et on voit des gens à tête inverse. Et ce qu'on voit peut paraître inversé. Et puis surtout, l'expression du désir. Le désir, le joy, qui ne sera pas un joy traître, mais un désir affirmé pour la dame aimée. Alors à ce stade-là, peut-être on peut écouter une pièce instrumentale, Patrice. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'il est important que nous vous parlions également de nos recherches à titre personnel.
C'est un morceau au départ, c'est un morceau d'église qui ne se jouait pas probablement sur cet instrument puisqu'il était interdit de jouer et qui était plutôt chanté. Mais ça peut être très intéressant aussi de l'interpréter avec un instrument, ce que je vais faire maintenant. C'est un morceau du XIIIe siècle, je crois. Catholicorum.
Thank you.
Alors, si vous voulez, c'est dans cette ambiance générale que le troubard va fleurir en s'autorisant toutes les inventions, toutes les digressions et surtout la liberté de parole. S'il y a une chose que l'on doit retenir du troubard, c'est que il n'est enchaîné à aucune école, aucun style, aucun seigneur, et encore moins à aucun mouvement de société. Souvent on me dit, oui mais et le catharisme ? Oui mais les troubadours avaient beaucoup de distance. Et quand ils en parlaient avec de la distance et de l'humour. Raymond de Miraval qui dit à Brunissen de Cabaret, qui est notoirement connu pour catharisme et son engagement auprès des hérétiques, que sur moi s'étende l'esprit de votre joy. Et ça, c'est typiquement cathare. C'est cette pluie tombée du ciel qui va représenter le joy, et c'est un clin d'œil. Chez Gaussen Faidit, par exemple, il dit « Ah oui, j'étais en Provence et j'ai rencontré beaucoup de fines credences. » Le mot « fine » qui est emprunté au langage des alchimistes, qui désigne le fin troubard, c'est-à-dire la poésie subtile, le troubard subtil, le fin amour, le fin amar, eh bien lui, il va l'appliquer à fin credens, les fins croyants. Intéressant. Et comme ça, on peut multiplier quelques exemples. Bon, il y a des troubadours, évidemment, comme Guillaume de Durfort, qui ne cachent pas leur engagement direct, et qui prendront même l'épée pour aller combattre les mercenaires de la croisade. Donc, le troubard va se développer ainsi, de la façon la plus extravagante, partout, en Europe, avec une règle, c'est qu'une chanson, dès lors qu'elle est trouvée, elle doit être écrite. On n'a pas idée de ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais pour ceux qui ont vu le film « Le nom de la rose », dans ce scriptorium, on peut imaginer. Alors je vais vous donner quelques étapes de comment on fabrique une page de manuscrit. On prépare la peau, il faut la tanner, bien sûr. Donc, il y a une personne qui va travailler pour ça. Voire deux, parce qu'avant, il y a celui qui va dégraisser la peau. Ensuite, il va y avoir le lustreur, c'est-à-dire celui qui va préparer la peau pour qu'on puisse mettre l'encre. Il y a celui qui va préparer les encres. Il y a celui qui va dessiner la lettrine ou l'enluminure. Il y a celui qui va tracer les lignes pour la mélodie. Et enfin, il y a celui qui va écrire les mots. C'est pour ça que nous avons des manuscrits. Quand on regarde les manuscrits, les chansonniers des troubadours, on voit qu'il y a des manuscrits qui n'ont pas été terminés, des chansons qui n'ont pas été terminées. Il y a le texte, il y a la lettrine, mais par exemple, il n'y a pas les notes. Parce que celui qui était chargé de mettre les notes, ben peut-être qu'il a été appelé ailleurs et figurant dans le film du nom de la rose, justement. Et donc, il n'a pas mis les notes. Donc, ça veut dire que l'écriture a valeur de symbole. Une chanson est pensée pour durer bien au-delà de la mort du troubadour. Le troubadour Arnaud de Tintignac aura cette phrase magique. Il va dire « Joli clair, ma chanson est terminée, chaque mot est à sa place, on ne doit rien y changer, mette-la en écriture. » Mets-la en écriture. Vous voyez, ce n'est pas simplement « écris-la », c'est mettre en écriture. Ça veut dire en valeur, écrite, avec les couleurs de la lettrine, des lettrines, voire de l'enluminure, la feuille d'or, etc. Et c'est pour cela qu'on peut toujours s'interroger, et on s'interroge toujours d'ailleurs, sur cette puissance de l'écriture au XIIe et XIIIe siècle. C'est incroyable. Et quand nous arrivons au Cantigas per la Santa Maria, dont nous sommes à la fin du XIIIe siècle, nous avons affaire à un roi qui, lui, n'a pas de problème d'argent, Alfonso el Sabio, et à la cour de Tolède, il va faire écrire toutes les pièces qui sont interprétées dans cette cour. Et puis, il va rassembler tous les brèves des pergamines, toutes les feuilles, va compiler l'ouvrage, et puis va dédier ça à la Sainte Marie. Il va faire les cantiques à Santa Maria. Alors, cette cour de Tolède, elle est importante pour les troubadours, parce que quand, à l'époque de la croisade contre les Albigeois, évidemment, les troubadours sont des hommes comme les autres. Soit ils sont engagés, soit ils ne sont pas engagés, soit ils s'exilent, soit ils restent. Toujours est-il que ceux qui partent doivent se trouver d'autres cours. Certains vont en Italie du Nord, beaucoup vont en Italie du Nord. C'est pour ça qu'en Italie du Nord, nous avons beaucoup de manuscrits qui concernent les chansons de troubadours, parce qu'il y a là des seigneurs qui accueillent les troubadours et qui font copier leurs chansons. Il y a ceux qui vont aller au Portugal, il y en a beaucoup qui vont aller chez Frédéric de Weinstaufen, en Sicile. Bon, alors, si on en croit les témoignages, il n'était pas aussi généreux que les autres monarques d'Europe. C'était plutôt un pingre. Mais il accueillait les troubadours et il les protégeait. Et puis il y a parmi les derniers troubadours, Guiro Riquet de Narbonne, qui lui va aller à la cour de Tolède, chez le roi Alfonso Díaz el Sabio, le roi savant. Et lui, il y sera accueilli non seulement comme un troubadour, mais également comme professeur. Il y sera docteur de troubar. Il restera à cette cour pendant 15 ans. Nous sommes en 1285. Il va rester là longtemps et puis il va revenir en Occitanie et il ira dans la dernière cour qui reste, celle de Henrique de Rodez, qui sera la toute dernière cour occitane à accueillir des troubadours. Et puis, avec la mort de Guiro Riquet, c'est terminé. Il n'y a plus de troubar. Bien sûr, il y a Raymond Cornet. Et Raymond de Cornet, il est à Saint-Antonin. Mais lui ne se considère plus du tout comme un troubadour. Parce qu'il ne fait pas des chansons d'amour. Il n'utilise pas les codes utilisés par les anciens, Bernard Ventadour, Raymond de Miraval, Pierre Vidal, etc. Lui, il va faire des chansons pour amuser le public. Des truffarios. Il va faire ça, Raymond de Cornet. Mais, comme dit René Nelly, c'est pas parce qu'il faisait ça qu'il n'était pas au courant. Mais il avait envie d'écrire en occitan. Puis arrivera, en 1324, la fondation de l'Académie des Jeux Floraux, sous la forme de la Sobregaio Compagnie del Set Troubadours de Toulouse, dont c'est une société littéraire qui est fondée par sept bourgeois de Toulouse, qui se disent quand même l'époque des troubadours, c'était formidable. Et donc, ils vont relancer l'intérêt pour l'écriture occitane à travers l'organisation de concours. L'un des premiers primés sera Gaston Phébus, comte de Foix-Béarn. Et il recevra la violette. Aujourd'hui, moi, je suis moi-même mainteneur de cette Académie des Jeux Floraux, vous voyez. Mais En 1694, le roi Louis XIV va instituer cette société littéraire en académie, Académie des Jeux Floraux, parce que ça vient des Jeux Floraux. Hein. Vous avez compris, le concours, c'était l'attribution de fleurs. Et il fondera également l'Académie française. Donc, le roi va fonder deux académies, à Paris, l'Académie française, et à Toulouse, l'Académie des Jeux Floraux. Chose qui est quand même intéressante, c'est que à l'Académie française, on ne va pas trop s'intéresser à la poésie, mais par contre, à Toulouse, on va s'intéresser qu'à la poésie. Et parmi les primés, ils sont très très nombreux, Chateaubriand, Voltaire, Victor Hugo, Frédéric Mistral, enfin bref, pléthore. Et aujourd'hui encore, la tradition continue. Vous aussi, vous avez été primé, monsieur, c'est ça? Très bien. Vous voyez, vous êtes dans la lignée des primés. Et il va y avoir pléthore de personnes qui vont écrire en occitan des vers à la manière des troubadours. Mais malheureusement, ce ne sont plus des troubadours, parce que chez les troubadours, il y a des codes, il y a des références. Et ces références, elles vont disparaître à la fin du XIIIe siècle. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, je vais plutôt vous laisser la parole. Ou on laisse la parole au chant. Au chant ? Alors, je voudrais... J'ai parlé du manuscrit de Ripoll. Et puisque nous avons la chance d'avoir Anthony, on va écouter peut-être un extrait d'Ovadia. Qu'est-ce que tu en dis ? Un peu ? En hébreu ? Et puis on demandera à Sandra de chanter la chanson qu'elle souhaite. Ça peut être une chanson de femme troubadour, par exemple. Et après on passe aux questions, ça va ? En fait, il faut savoir qu'il y a un mouvement qui s'est créé au Portugal qu'on appelait El Trovadorismo. Et c'est vraiment un mouvement qui est issu de l'école des troubadours. Et chose très importante, c'est que les cantigas de amigo, ou les cantigas de amante, ou les cantigas de amiga, amigo, amiga, amantes, sont des chansons écrites en galliego. Il faut savoir que les cantigas de Santa Maria, dont j'ai parlé tout à l'heure, la langue employée, c'est le gallego, c'est-à-dire le galaïco portugais. Et en dehors de ces chansons-là, s'est développé le trovadorismo autour de Martim Kodax, par exemple. Et donc, c'est une chanson de Martim Kodax en gallego que vous allez entendre, que Anthony va chanter. Ondas do Mar. Il va jouer sur sa citole, qu'il a fabriquée lui-même. Thank you. dans le répertoire des chansons de troubadour et des troubadourites, nous avons une seule chanson avec la mélodie qui concerne les femmes troubadours. Mais nous avons quand même plusieurs textes. Mais il se trouve que pour avec la mélodie originale, il n'y a qu'une chanson qui est dotée de la mélodie. Il faut que vous sachiez que, également, nous avons plus de 600 textes de troubadours, et il n'y en a que 248 qui sont notés avec la mélodie et attribués nominativement au troubadour. Il y en a 32 autres qui sont anonymes. Nous avons enregistré les 248 déjà. Ça a fait l'œuvre Troubadour Ensemble a créé cette œuvre gigantesque et unique au monde. Ça représente 22 CD. Et à la rentrée, à la fin du mois d'octobre, nous allons enregistrer les 32 textes anonymes dotés de la mélodie. Donc, et parmi tout cela, il y a cette unique chanson de femme troubadour avec une mélodie. Elle est due à la comtesse de Die.
Entro per cui andrà. Merci pour votre présentation qui était très claire. J'avais une question complémentaire sur comment ça se passait, les spectacles, ou enfin la production des troubadours. Est-ce qu'ils étaient à plusieurs? À quel moment ça se passait? Est-ce que ça durait longtemps? Enfin voilà, le cadre dans lequel ils opéraient. Et est-ce qu'ils étaient attachés à une cour, ou bien est-ce qu'ils passaient un peu de temps où ils se promenaient sur différentes cours?
Alors, il y a eu beaucoup d'interférences avec le micro, mais je pense que j'ai compris votre question. Le contexte de la composition poétique, en gros, c'est ça? Et le contexte de leur vie sociale aussi. Voilà. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on passe quasiment toute la journée à cheval. On se déplace beaucoup, tous les jours, tout le temps. Et les troubadours, pour citer le troubadour Bernard Marty, « Seigneur, vous savez, j'écris des chansons tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Toute l'année, je vous assure, 2 ou 3 par an. » Là, c'est le témoignage artistique d'un troubadour professionnel. Donc, il y a une production. Je parlais de l'importance de l'écriture tout à l'heure. Elle est justifiée, par exemple, par ce témoignage-là. Le troubadour Bernard Marty, pour ne citer que lui, était proche des comtes de Sessac. Donc, il était attaché à cette cour. Mais on le retrouve ailleurs, à Toulouse, on le retrouve ailleurs. Des grands troubadours très importants, comme Peyre Vidal, par exemple, est très proche du comte de Toulouse et passe une partie de sa vie chez le comte de Toulouse. On le retrouve également chez les comtes de Barcelone, où il apprendra même à jouer de la vielle et à composer des chansons à un des comtes de Barcelone. On le retrouve ensuite dans une cour à Malte, dans une cour à Chypre, et jusque dans la lointaine Hongrie, où il séjournera plusieurs années. Donc, un troubadour, si vous voulez... Je prenais Rimbaud de Vaqueras, parce que Rimbaud de Vaqueras, qui est mort à la fin de sa vie avec d'immenses richesses, des terres, des châteaux, des chevaux, etc., était vraiment, lui, attaché à une seule cour, à une grande cour italienne des seigneurs de Montferrat. Mais la plupart des troubadours ne sont pas attachés à une seule cour. Et c'est ce qui fait la force du troubard, c'est que le troubard a été dans toutes les cours d'Europe, présent, et surtout, et ne pas perdre de vue ça, dans les cours outre-mer, ça veut dire à Jérusalem, Tripoli, etc. Quand les comtes, les seigneurs faisaient leur temps de croisade, ils emportaient avec eux, à la cour, les troubadours. Les troubadours faisaient partie de leur cour, donc ils les suivaient. Certains troubadours, comme Giraud de Bruneil, parce qu'ils avaient envie de faire leur pèlerinage à Jérusalem, y allaient de leur propre chef. Certains autres y allaient un peu forcés, et ils suivaient un peu obligés leur seigneur. Mais ce qui prouve obligatoirement qu'il y a eu des relations très importantes entre la poésie arabe et la poésie occitane. Ceci se voit très clairement dans les miniatures, les enluminures du chansonnier des Cantigas de Santa Maria, où il y a notamment, on voit un joueur musulman sur le même dessin, à côté d'un musicien chrétien, tous les deux jouant d'un instrument qu'on appelle à l'époque le sistre. Et donc, c'était l'époque de ce qu'on a appelé plus tard, ce que Américo Franco a appelé plus tard la convivencia, ça veut dire les trois cultures, juive, arabe et chrétienne, et musulmane et chrétienne, qui vont coexister. Oui, ce sont des... comme un écrivain. Un écrivain aujourd'hui, il va pas écrire de 8h à midi, de 14h à 17h, c'est tout le temps. Ah, à quel moment ils chantent leurs chansons? Mais ça, je n'avais pas entendu. Alors, ça peut être toute la journée aussi, mais ça dépend. Ça veut dire qu'ils chantent leurs chansons Alors, on va prendre un exemple précis. Soyons précis. Le comte de Toulouse va visiter les comtes de Provence. Il arrive dans la cour du seigneur Barral de Provence avec chevaux, dames et damoiseaux, etc., toute la suite. Il va y avoir un banquet d'accueil qui va être... À quelle heure? Je ne peux pas vous le dire. Je le saurai, je vous le dirai. Mais il va y avoir un banquet d'accueil. Dans ce banquet d'accueil, le comte de Toulouse va dire « Je vous présente mon médecin, je sais que votre femme est malade. Je vous présente mon astronome, je sais que vous allez partir en croisade. Consultez-le, il est très bon. » Et puis, il va se tourner vers Peyre Vidal et lui dire « Seigneur, vous, est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir d'une de vos chansons ?» Ça se passe à ce moment-là. Mais ça se passe aussi en dehors de ce moment-là. Je veux dire la diffusion, hein, la chanson elle-même, l'expression de la chanson. Sinon, tout le reste, ça se passe tout le temps, quoi. Voilà. Mais l'expression de la chanson se passe à ce moment-là. On a un troubadour, on a un témoignage du troubadour Cerveri de Gironne, qui à la fin de sa chanson dit « Bon, moi j'écris tout le temps, j'écris des vers, j'écris des chansons, je veux que ma chanson soit parfaite. » Et Seigneur, dont là il adresse sa dernière cobla, ce qu'on appelle la tournade, c'est la moitié d'un couplet, à son Seigneur, c'est pas rien, hein, son Seigneur quand même, c'est les comtes de Barcelone, quoi. Et il lui dit, Seigneur, ne regardez pas par-dessus mon épaule, vous voyez bien que je suis en train d'écrire des chansons, je n'ai pas le temps pour vous. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, si vous voulez. Mais dans la mesure où il l'écrit dans une chanson et où il sait que cette chanson va être dite largement en dehors de la cour, ça veut dire que le Seigneur de Barcelone, il va bien entendre ça, hein, parce que ça lui est réservé. Parce que dans les chansons de troubadour, il y a toujours les messages pour les dames, pour le protecteur, pour les amis, etc. Donc il va bien entendre ça, il va bien entendre que peut-être quand il a un troubadour à sa cour, il ne faut pas le déranger trop, quoi. Il ne peut pas en disposer comme ça.
Je voulais demander si dans tout le répertoire que vous connaissez, il y a une évolution stylistique. C'est-à-dire que dans toute la période, est-ce que c'est une unité, c'est un style
alors,
unique
il y a...
ça évolue?
Oui, alors il y a effectivement une évolution artistique. Ça, vous l'avez un peu entendu au départ. On part des tropes, des chansons qui ne sont pas très ornées vocalement, comme la première chanson que vous avez entendue de Marc Cabru, et encore avant de Guillaume IX, pour arriver ensuite aux chansons de Guiraud Riquet, et ça, vous en entendrez ce soir, qui sont extrêmement virtuoses. Donc il y a une évolution stylistique sur la musique, au point que Jacques Chaillet, qui est un de nos plus grands, éminents musicologues et qui est français, dit « La vraie Renaissance se situe à l'avènement de la monodie. » L'avènement de la monodie, c'est l'exploitation des modes dans leur forme complètement ornée. C'est ce qui rejoint, si vous voulez, dans l'architecture, dans l'école de Notre-Dame, le passage de l'art roman à la période gothique avec toutes ses ornementations. Mais Jacques Chaillet va plus loin et dit que la Renaissance, ce n'est pas la polyphonie de Marceau, mais la monodie de Guiraud Riquet. Si Sandra veut bien chanter juste... pour l'exemple mélodique, c'est important. Juste les deux ou trois premiers vers de la Sobrunerade ou de... Ça permet de voir jusqu'à quel point ça va. Sur un plan littéraire, bien entendu, sur un plan littéraire, plus on va aller de l'avant, plus les chansons vont se construire de façon extravagante, mais en même temps, si vous voulez, pour faire une chanson, il faut trois ingrédients. Il faut les mots, le thème et la mélodie. Pour les mots, les chansons des troubadours n'ont jamais été aussi extravagantes qu'au début. Parce qu'au début, elles étaient contestataires et elles s'opposaient un peu à tout. À la fin, on passe sur un registre beaucoup plus simplifié, ça veut dire dénoncer la croisade, ou bien faire des chansons pour la Vierge Marie, etc. Et ensuite, pour les thèmes, eh bien, les thèmes, ça va dépendre du troubadour. Donc, il y a effectivement... Mais par contre, sur le plan de la musique, on arrive à voir qu'il y a une évolution incroyable entre les premières mélodies qui sont, on va dire, relativement resserrées, et à la fin, avec Guéraud Riquier, où nous sommes vraiment sur l'ornementation pour l'ornementation. Le monde par Enchanta. Vous en parlerez. Là, on est vraiment dans le monde des mélodies de Guéraud Riquier et on voit qu'il y a vraiment une élaboration, une recherche, une finesse incroyable de la mélodie et du monde. Hein. Alors, nous allons prendre encore deux questions, pas plus, parce qu'il y a le concert.
Dans cette mélodie, comme dans celle de tout à l'heure, le chant gallego, je trouve qu'il y a de fortes similitude avec les chants liturgiques. Alors, est-ce que c'était une volonté de rivaliser avec l'autorité religieuse ou est-ce que c'est lié à l'esthétique de l'époque ?
Alors, ça c'est une question délicate parce que c'est un problème d'interprétation, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, c'est le mieux. Je vais vous chanter le début d'une chanson de Peyre Vidal. Peyre Vidal était un troubadour extraordinaire qui faisait beaucoup d'ornementation. Alors, je vais vous chanter Peyre Vidal à la façon de l'école anglaise, reconstitution de la mélodie.
Post ornat sui in Provenza. Et ta Madonna sabu, bende e fa gaia chansu, si val per ecu noi senza.
Bon, on pourrait la chanter.
Posturnat sui em pruensa et madonna sabu, bendei fagia chansu, si val per ecu noi senza, ca servi e abundra, etc., etc.
Voyez? Donc, c'est une question d'interprétation. Quand on chante les, quand on chante en latin les motets, il est évident qu'on n'est plus dans la langue occitane et qu'on chante les voyelles, parce que c'est ce qu'on apprend. Dans les monastères, on apprend le chant des voyelles. Donc, quand on chante la fête de l'âne, « Vinum bonum cum sapore », etc., c'est quelque chose d'un peu enjoué en latin, mais quand on chante les motets du manuscrit de Montpellier, ça devient tout à coup la musique liturgique, comme nous avons entendu au début avec Compagnons. Quand nous sommes à l'époque de Guiraud Riquier, si Sandra chante Guiraud Riquier comme ça, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Guiraud Riquier vit dans cette cour et fait les chansons comme ça. Donc, c'est une histoire de contexte. Mais là, il faudrait faire une conférence que là-dessus. Ça veut dire comment aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec les élèves à Stanford, par exemple, où nous réfléchissons sur comment chanter les troubadours aujourd'hui, dans notre 21e siècle. Est-ce qu'on fait « Postulate em pruensa et amadonna sabu bendei fagaya chanceu » ou est-ce qu'on fait « Postulate » On fait comme on veut. Vous comprenez? C'est ça un peu. C'est pas comme on peut, mais on fait comme on veut. Et à partir de là, vous savez, les troubadours, on ne sera jamais aussi fous qu'ils ont été. Quand même, celui qui écrit « Aresplan, la flour s'emberse, s'appelle trincan, rang s'appelle terre, c'est scalflou, naouchol, c'est cung la pisse. » Tout ça, il a réfléchi. Il a réfléchi. En fait, il invente le rap. Tout simplement. Vous voyez, donc ça, l'interprétation, c'est autre chose. C'est pour ça qu'avec Claude Sicre, quelquefois, quand on parle du troubard, bon, après, les images troubard, rockstar, troubadour, ça c'est quelque chose. Mais pourquoi pas? On peut faire dire tout et tout encore à tout. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on chante, le contexte. Le contexte d'une chanson. Une chanson de troubadour, elle a toujours un contexte. Par exemple, Postornatsu y Impruenza. Moi, quand je l'entends chanter par notre ami anglais, là, je me dis, non, il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce qu'il ne sait pas de quoi parle la chanson. La chanson dit, maintenant que je suis revenu en Provence, parce que j'avais volé le baiser à cette dame et qu'elle me l'a offert sous la pression de son mari, eh bien, je suis heureux de revenir encore l'embrasser. Vous comprenez que là, on n'est pas dans le... dans le monde de la liturgie sur l'amour de Dieu, quoi.
Je me demandais s'il y avait des interprètes, des gens qui faisaient que de l'interprétation de chansons de troubadour et comment ça se passait la diffusion aussi, parce qu'un troubadour, s'il était dans une cour, il ne pouvait pas chanter dans toutes
alors,
les cours. Est-ce qu'il y en avait, qui étaient juste interprètes?
Oui, alors ça s'appelle les jongleurs, les juglars. Alors, le troubadour Bernard de Ventadour, par exemple, c'était un vrai entrepreneur de spectacle. Ça veut dire qu'il avait 8 jongleurs. Ça, on le sait parce que les troubadours, qui sont des gens intelligents, qui ont réfléchi, et qui sont en plus courtois et polis, et qui ont quand même envie d'être copains avec les autres troubadours, qu'on appelle les intendants, c'est-à-dire ceux qui s'y entendent comme eux, eh bien, ils vont donner un hommage à chaque jongleur. Et c'est comme ça que dans les chansons de Bernard de Ventadour, on arrive à compter 8 jongleurs. Qu'est-ce qu'un jongleur? Un jongleur, c'est celui qui, pour gagner sa vie, à la cour, va distraire le public avec sauter dans un cercle, par exemple, jongler avec des balles, montrer des animaux, etc. Et puis, il y a les jongleurs musiciens qui, eux, vont jouer des instruments de musique, seuls ou ensemble, Et puis, il y a les jongleurs spécialisés dans les chansons. Et ce sont ces juglars-là, ces jongleurs-là, qui vont demander au troubadour une chanson, voire acheter au troubadour une chanson, et avec cela, ils vont aller gagner leur vie dans les cours. Et c'est pour ça que les chansons de troubadour sont toujours précédées de ce qu'on appelle une légende vida ou raso. Exemple, Bernard de Ventadour était un... on va prendre mieux que ça. Le vicomte de Saint-Antonin était de Saint-Antonin. Si vous saviez, sa femme est partie, elle l'a quittée pour aller chez les Patarins. Mais bon, une fois que je vous ai raconté ça, vous n'en saurez pas davantage. Aussi, je vais vous chanter sa chanson. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'on va raconter une histoire d'un personnage incroyable. Le jongleur va faire ça. Et après, il va dire la chanson. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que toutes ces vidas et ces raseaux des jongleurs, elles ont été tellement dites et redites et surdites qu'à la fin, on les a écrites. Et nous avons un manuscrit à Paris, le 12473, qui porte ce numéro, donc, qui fait état de toutes ces vidas et de ces raseaux. Et c'est vraiment très, 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 très intéressant parce qu'on y apprend plein de choses.
Je ne peux pas poser ma question sur les instruments.
Alors, voilà. Donc, merci, Nicole. Dont l'instrument qui accompagne, l'instrument roi qui accompagne les chansons de troubadour, attention, nous sommes au 12e et 13e siècle, d'accord ? C'est là ce qu'ils appellent viola, c'est-à-dire la vielle à archer, qui serait celui-ci, si vous voulez. C'est-à-dire, il a toutes les formes, il a des cordes toujours en boyau, et il a toutes les formes, tout le nombre de cordes diffère, il peut être de 2, de 3, de 4, il a les rebecs, c'est ce qu'on voit le plus représenté dans les enluminures, il y a la harpe, il y a les citoles, là vous avez vu tout à l'heure la citole de Antoni, mais il y a toute forme de citole aussi. Il y a les guiternes, qui sont des instruments à cordes doubles, etc. Donc, on a, en organologie, on a quand même beaucoup travaillé depuis très très longtemps maintenant. Nous avions travaillé là pendant 2 ans dans un projet européen avec Antoni, avec nos amis à Chypre, en Italie et en Espagne aussi, sur la reconstitution des instruments de musique. Enfin, Despertant Instruments Adormits, c'est le réveil des instruments de musique. Nous avons fait un spectacle qui s'appelait, donc, du même nom, éponyme, avec tous les instruments qu'on utilisait au Moyen-Âge. La vielle à roue qu'utilise Patrice au Moyen-Âge, elle est carrée, elle est représentée, elle est toute carrée avec une roue. C'est le même principe, elle est moins élaborée. Le tympanon, lui, il n'a pas changé. Bien sûr, celui-ci, l'harmonium indien, n'existe pas au XIIe et XIIIe siècle. Et ce qui existe au XIIe et XIIIe siècle, bien sûr, c'est toutes les formes de flûte, de chalumeau aussi, etc. Maintenant, comment on jouait de cela? Comment on accompagnait la chanson? Est-ce que vous avez déjà entendu chanter un chanteur de flamenco? Donc, il y a une fusion entre le chanteur de flamenco, celui qui chante, et celui qui l'accompagne à l'instrument. On peut imaginer que, c'est une piste en tout cas à explorer, que c'était accompagné comme ça. Certains musicologues pensent que c'était accompagné avec le luth, mais note à note. Tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que la voix, c'est la parole d'or. C'est-à-dire, c'est d'abord la voix, parce que c'est d'abord le texte. Parce que le texte, il est là pour dire quelque chose, raconter quelque chose. Donc ça, c'est l'instrument numéro un. Ensuite, les instruments qui vont venir pour ponctuer, comme on voit souvent à Chypre, par exemple, ou en Grèce, où il y a le chanteur, et puis le chanteur s'arrête, et puis c'est l'instrumentiste qui prend le relais, avec la lyre, par exemple, et après c'est le chanteur, après c'est la lyre, etc. Donc, on ne peut pas dire que... vous savez que Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature. Et vous savez que Bob Dylan, ou vous ne le savez pas, mais sinon je vous le dis, c'est toujours présenté comme un troubadour. Voilà. La différence avec Bob Dylan et les troubadours dont je parle, c'est que Bob Dylan, il fait des accords sur sa guitare, il chante sa chanson. Les troubadours ne faisaient pas d'accords sur leur instrument, mais chantaient quand même leur chanson. Voilà. Juste pour dire qu'on n'est pas dans le monde de l'harmonie, on est dans le monde du mode en musique. Donc, on prenait un instrument qui allait donner la base pour accompagner la voix, et la voix, elle, va faire tout ce qu'elle veut dans le mode. Voilà. Je vous remercie beaucoup.